OK, on va commencer notre 121e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Nous allons voir ce matin la doctrine de la soumission à la volonté de Dieu. Alors, comme on l'a répété dans les leçons précédentes, c'est important de se souvenir que l'adoration comporte deux facettes, intérieure et l'extérieure. On est encore dans l'adoration intérieure. On avait vu que la piété, c'était la base essentielle de l'adoration intérieure et qu'on pouvait la comparer à un arbre qui comporte de multiples branches. Jusqu'ici, on a étudié 13 branches de cet arbre qui est la piété. Nous continuons notre étude en examinant une 14e branche de l'arbre de la piété, la soumission à la volonté de Dieu. La soumission à la volonté de Dieu constitue une partie du renoncement à soi-même. C'est une autre leçon essentielle de la vie chrétienne et elle est difficile à apprendre. Voici quelques exemples. Élie, David et le Christ lui-même. Alors, on va prendre l'exemple d'Élie dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 13 et 18. « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. » Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Là, on se souvient que c'était un sacrificateur. Ses deux fils faisaient des choses dans le temple, pas dans le temple, mais dans le tabernacle qui n'était pas correct. Et l'Éternel avait dit à Samuel qu'il tuerait ses deux fils, qu'il permettrait que ses deux fils connaissent la mort. Et on voit ici, Samuel lui raconta tout. Alors, il a dit, l'Éternel m'a dit que tes deux enfants mourraient. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce que lui semblera bon. Ça a l'air facile à lire comme ça, là, mais si c'était nos enfants, on verrait que c'est une autre game. 2 Samuel, chapitre 15, versets 25 et 26, on a l'exemple de David. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Alors David, ici vraiment un exemple de soumission à la volonté de Dieu, il dit qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Et on a l'exemple suprême, le Christ lui-même, dans Matthieu 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors on voit, Christ se soumet à la volonté du Père. Premier point qu'on va regarder, c'est ce qui doit être soumis. C'est bien sûr la volonté de l'homme qui se doit d'être soumise parce qu'elle est très entêtée et inflexible. Elle est endurcie par le péché et dure comme une pierre. Elle est aussi adversaire de tout bien. Elle hait le bien et les personnes qui le pratiquent. Elle aime le mal. Elle hait la loi de Dieu. Elle ne peut ni ne veut s'y soumettre. Et elle ne veut ni comprendre ni pratiquer le bien. Ça ne nous donne pas une idée très haute de notre volonté. Hein? Elle est aussi biaisée et inclinée vers le mal. C'est la raison pour laquelle le Seigneur se doit de nous apprendre à la soumettre. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Alors, parce que les hommes ne voient pas immédiatement un jugement de Dieu sur leurs actions, ils pensent qu'on peut faire, on peut en faire comme on veut. Jérémie 18, verset 12. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Alors, eux-mêmes disent les penchants de notre mauvais cœur. Autre caractéristique de la volonté de l'homme, c'est qu'elle est opposée à celle de Dieu en toutes choses. Même dans les choses qui sont pour son propre bien et sa destinée éternelle. Alors, on voit l'être humain, même dans les choses pour son propre bien, quand tu lui dis, si tu continues même, tu t'en vas en enfer, il ne s'en occupe pas. Alors, ça voit que sa volonté est vraiment inclinée vers le mal et qu'elle veut rester là. Jean 5, verset 40, c'est le Seigneur qui parle et dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? » Luc 19, verset 14, « Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Alors, on parle dans le contexte, c'est Jésus-Christ. Alors, ils ne voulaient pas que Christ règne sur eux. Si tu ne veux pas que quelqu'un règne sur toi, c'est parce que tu ne veux pas soumettre ta volonté à la sienne. Alors, bien sûr, notre volonté est ennemie de Dieu, que les Écritures nous disent. Romains 8, versets 6 et 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est pas un compliment. Le Seigneur nous dit que l'affection de la chair, ça c'est notre être naturel. On est des ennemis contre Dieu. Donc les êtres humains haïssent Dieu avant d'être sauvés. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Puis même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas. Parce que ça dit qu'elle ne le peut pas. Psaume 68, verset 18. Ça, c'est encore quelque chose qui est un petit peu peut-être humiliant pour nous, même après notre salut. Elle est encore rebelle, notre volonté. Alors, psaume 68, verset 18. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Et on pourra prendre bien d'autres passages pour illustrer ça. Deuxième point qu'on va regarder, comment Dieu produit la soumission en nous. Alors, il procède par des étapes et des actions pour soumettre nos volontés. La première étape, c'est qu'il brise la volonté de l'homme. Il le fait en la crucifiant sans arrêt, par les circonstances affligeantes de sa providence. Il le fait aussi en l'amenant, on parle de la volonté, graduellement à abandonner la lutte. Il le fait aussi en installant solidement son joug sur notre cou. Alors, on se souvient qu'un joug, c'est comme les affaires sur les dos des bœufs. Là. Il installe son joug sur nous. Lamentations 3, versets 26 à 28. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Donc, il le fait premièrement en brisant notre volonté. Deuxièmement, il le fait par le travail du Saint-Esprit. Ce travail ne se fait pas par la force ou la compulsion, mais plutôt par l'attraction et l'amorce. Une amorce, c'est comme quand on prêche un poisson, on l'attire. Donc, le Saint-Esprit change les choses dans notre volonté, non pas en nous écrasant, puis tu vas faire ça, mais c'est comme plus par l'attraction et l'amorce. Un saint du passé disait, « Il le fait avec une omnipotence douce et une douce omnipotence. » Donc, Dieu est tout-puissant, mais il le fait doucement. Il le fait plus par l'attraction et l'amorce. Troisième action qu'il fait, il la débarrasse de son inflexibilité, de sa dureté, de son obstination et de sa raideur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, probablement dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur parle, ils ont le coup, des fois ils utilisent le mot roide, là. Le coup raide, ça veut dire que t'es tête de cochon, comme on dit en québécois. Alors, Job 23, verset 16, « Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. » Il le fait aussi avec sa parole. Jérémie, chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? » Alors, quand on lit la parole, parfois, Jérémie disait, j'ai comme un feu à l'intérieur de moi, même si je voudrais pas parler, je suis obligé de parler. Et brisé comme un roc, comme un marteau, ça dit qu'on a le cœur dur, mais il est capable de nous la casser, même juste avec sa parole. Parfois, on lit un texte, puis ça vient nous chercher. Alors, c'est le Seigneur le fait avec sa parole de, pour nous débarrasser de la dureté de notre cœur. Il le fait aussi par les circonstances providentielles affligeantes. Autrement dit, si on se met à regarder les afflictions qu'on vit, souvent, le Seigneur le fait pour changer des choses dans nos vies, pour briser justement notre dureté de cœur, nous soumettre à sa volonté. Quatrièmement, il la libère du joug du péché et de Satan. Alors, bien sûr, il le fait par grâce au moment de la conversion. Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cinquième raison, il produit en nous le vouloir et le faire. Acte 9, verset 6, on a l'exemple ici de Paul. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » On voit l'attitude de Paul qui change, parce qu'avant, c'est lui qui remplissait les autres d'effroi. Et là, le Seigneur l'a rempli lui-même d'effroi. Et il n'a plus le goût de faire sa volonté. Il dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Philippiens 2, verset 13. Ça, c'est important pour nous de bien comprendre ce principe-là. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors, ça est en train de nous montrer qu'il est souverain à l'intérieur de ça. Mais si on sent que des fois que Dieu veut qu'on fasse des choses, puis qu'on n'a pas ce qu'il faut, Dieu dit que c'est lui qui nous donne le vouloir, donc il nous met quelque chose dans la volonté pour qu'on ait le goût de le faire. Et non seulement il nous donne le goût de le faire, mais il nous donne la capacité de le faire. C'est ce que ça dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors ça, c'est une leçon importante. Peu importe ce que le Seigneur nous demande dans les Écritures, puis qu'on sait qu'on n'a pas, on dit des fois, on n'a pas la capacité. Je ne suis pas capable de faire ça, hein? Mais un moyen, demande-le à Dieu. Dieu, lui, est capable de te donner à la fois les deux, le vouloir et le faire. Sixième façon, action que Dieu utilise pour changer notre volonté ou la soumettre, c'est l'arrêt et l'acquiescement. Et d'abord, il nous demande de nous arrêter des fois, puis réfléchir à aux circonstances qu'il nous envoie. Psaume 46, verset 11, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Alors, des fois, on a besoin de s'arrêter. Acquiescer, ça veut tout simplement dire reconnaître sa main dans ce qu'il nous envoie. Alors, des fois, il faut s'arrêter, puis poser des questions. OK, pourquoi? Et rentrer en dialogue avec Dieu. Alors, il permet que nous reconnaissions sa main dans les circonstances affligeantes. Et les circonstances en général, pas seulement affligeantes, là, c'est lui qui est au contrôle de nos circonstances. Job 1, versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Il faut se souvenir qu'au moment où il a dit ça, il venait de perdre tous ses enfants. Tous ses biens avaient été détruits. Et en plus, il était tombé vraiment malade, couvert d'ulcères de la tête aux pieds. Est-ce que ça serait notre façon de réagir si Dieu ferait en sorte que nos enfants mourraient, disons notre conjoint mourrait, et qu'en fin de compte, on perdrait tous nos biens et qu'on tomberait malade au point qu'il n'y a plus personne qui nous reconnaît, plus personne qui va être vu en notre compagnie parce qu'on est... Et voyez-vous, la manière qu'il dit, en cela, mais ça n'a pas duré, par exemple, parce qu'on voit la fragilité de l'homme. Sur le coup, il a bien réagi, tout de suite après, là. Mais avec le temps, il a commencé à questionner Dieu, mais Dieu l'a replacé à la fin, puis ça s'est replacé, mais il reste qu'au début, il a quand même bien réagi. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas dit, ben, c'est pas juste, là, je te suis tout le temps, puis regarde ce que tu me fais. Il l'a fait un petit peu plus tard, mais sur le coup, il a bien réagi. Nous devons chercher, donc, à éviter deux extrêmes. le mépris de ce que Dieu nous envoie pour nous corriger et la perte de courage, qu'on voit dans Hébreux 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Deux choses qu'il nous dit là-dedans qui sont importantes, de ne pas mépriser son châtiment et de ne pas perdre courage. Alors, c'est vraiment les deux extrêmes. On peut le mépriser ou perdre le courage. Et une autre leçon importante qui nous dit que si on n'en reçoit pas de correction dans nos vies, c'est peut-être un signe qu'on est un enfant illégitime. Un enfant illégitime, en termes de la Bible, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Parce qu'un enfant qui est sauvé, puis qui est dans le péché constamment, le Seigneur dit qu'il va te châtier. Alors, nous pouvons exprimer nos peines par des émotions et non pas souffrir de façon stoïque. Donc, on se souvienne, par exemple, que Abraham et Joseph ont pleuré. Des hommes pieux aussi, quand Étienne est mort, ont pleuré. Se soumettre à la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer ou d'être triste. Ça veut tout simplement dire reconnaître sa main. Et on le voit, par exemple, dans Actes 8, verset 2. Des hommes pieux, alors on voit que c'était vraiment des personnes sauvées, ensevelirent Étienne et ils pleurèrent à grand bruit. Si Dieu nous disait qu'il faut se soumettre, pas pleurer, il aurait été en désobéissance. Il n'était pas en désobéissance. Tu as le droit de pleurer, mais tu n'as pas le droit d'attribuer des choses injustes à Dieu. Nous ne devons pas nous réfugier non plus dans l'inactivité volontaire, mais plutôt réclamer les grâces pour continuer à exprimer notre zèle et notre repentance. Nous devons prier, louer Dieu et réclamer ses promesses. Nous pouvons, par exemple, donner l'exemple de Charles Spurgeon qui souffrait énormément de la goutte et qui réclamait les promesses de Dieu. Alors, on sait que c'était un homme fidèle. Il y avait énormément de ministères. C'était un homme qui était très, 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 très investi dans l'œuvre de Dieu. Mais à l'époque, probablement qu'il ne savait pas. Manger de la viande, puis tout ce qui est... Ça rendait sa maladie pire. Mais à quelque part, il souffrait tellement qu'il dit dans sa biographie qu'à un moment donné, il a réclamé à Dieu ses promesses. Parce qu'il souffrait le pas ordinaire. Moi, je ne connais pas ça, la goutte, mais ça semble-t-il que c'est extrêmement douloureux. Alors, le psaume 37. Alors, on ne doit pas non plus se cantonner dans l'irritation et dans l'envie. Psaume 37, verset 1 et versets 7 et 8 de David. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Versets 7 et 8, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Autre action qu'il utilise, la garde de la paix intérieure et le silence. Psaume 39, verset 9, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » On a aussi l'exemple dans Lévitique d'Aaron, lorsque ses deux fils ont été terrassés par le Seigneur, sont morts, à cause qu'il avait offert des parfums. Alors, Lévitique, chapitre 10, verset 1 à 3, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Araon garda le silence. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais si vous verriez vos enfants être brûlés vifs devant vous, pas sûr qu'on n'aurait pas tendance à vouloir ruer les brancards un peu. Alors ici, on a l'exemple d'Araon, que devant le décret ou la décision de l'Éternel, il a gardé le silence. Autrement dit, c'était ce qu'il y avait à faire. Job 23, verset 14. « Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. » Dans Lamentations, chapitre 3, verset 37 à 39, l'Éternel nous rappelle que bien souvent nos afflictions sont méritées et qu'on se doit de les attendre. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Bien souvent, nos afflictions nous viennent de nos propres péchés. Autre moyen, l'écoute active et obéissante. Michée, chapitre 6, verset 9, dans la version Darby. « La voix de l'Éternel crie à la ville, et la sagesse à l'œil sur ton nom. Écoutez la verge et celui qui l'a décrété. » Alors ici, dans le contexte, c'est que le peuple était jugé par le Seigneur. Et là, quand il leur dit « Écoutez la verge et celui qui l'a décrété », autrement dit, vos circonstances, ce n'est pas un hasard si ça vous arrive. C'est comme... Comparez-les à une verge, et cette verge-là, c'est moi qui ai décrété que ça arrive. Alors, c'est ça qu'il leur dit. La voix de l'Éternel crie à la ville et la sagesse à l'œil sur ton nom. Écoutez la verge et celui qui l'a décrété. Autre action, c'est l'humiliation volontaire de soi-même. Alors, parfois, on peut le faire par nous-mêmes. Des fois, c'est l'Éternel qui le fait pour nous soumettre à sa volonté. Mais il nous dit qu'on peut le faire par nous-mêmes également. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, bien sûr, le Seigneur peut nous humilier, mais il nous invite aussi à nous humilier nous-mêmes. Troisième point, pourquoi la volonté doit se soumettre à Dieu? La première raison, c'est bien simple, c'est que toute circonstance providentielle est voulue de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par une circonstance providentielle? C'est tout ce qui arrive dans la vie. Tous les événements qui nous arrivent dans notre vie, sans exception, est voulu de Dieu. Dieu dirige sagement et souverainement nos circonstances. Dieu est immuable et sa volonté est irrésistible. Job, chapitre 23, verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Ésaïe, chapitre 14, verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Alors, quand Dieu nous envoie quelque chose, il faut savoir qu'il faut reconnaître sa main dans ce fait-là. Deuxième raison, pourquoi la volonté doit se soumettre à Dieu? Parce que Dieu ne rend de compte à personne. Job, chapitre 33, verset 13. « Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? » Dieu ne rend pas de compte à des êtres humains pécheurs et imparfaits. Il dit lui-même, puis il y a d'autres passages qui disent aussi qu'il ne rend pas de compte aux pécheurs. Troisième raison pourquoi la volonté doit se soumettre à Dieu, parce que Dieu est infiniment sage. Romains 11, verset 33-36. On se souvient que c'est vraiment Romains 11, c'est Paul qui a fait tout le développement de l'Épître aux Romains pour montrer que tout le monde est perdu, que les Juifs y compris, et il parle de Christ, il les emmène tranquillement. Et après que tout finit ça, Romains 11, c'est vraiment que la conclusion, il dit... « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Dieu est infiniment saint, autre raison, parce que Dieu est infiniment saint et juste. Lévitique 11, verset 44, la première partie. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Deutéronome, chapitre 32, verset 4. « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Autre, Dieu est fidèle. Psaume 119, verset 75. « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Voyez-vous, il nous dit que quand il nous humilie, c'est parce qu'il est fidèle. Mais nous, on n'aime pas ça être humilié. Mais lui, il nous dit qu'il y a une raison pour laquelle il fait les choses. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Quand on dit qu'on a eu une tentation et qu'on n'a pas pu résister, on fait mentir la parole. Parce que la parole nous dit que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et il nous dit qu'en même temps qu'il nous envoie la tentation, qu'il permet la tentation, il nous envoie aussi le moyen d'en sortir. Alors, si on n'a pas, si il nous envoie quelque chose puis on n'utilise pas le moyen, là, on peut tomber. Mais il nous dit qu'il ne nous tente jamais au-delà de nos forces. Autre raison, Dieu est amour et miséricorde. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Luc 1, verset 50. « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Autre raison, tout ce que le Seigneur fait est bon. Psaume 119, verset 68. « Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » Isaïe 39, verset 8. Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » 2 Samuel, chapitre 3, verset 36. Alors, dans le contexte, on voit que les sujets de David, donc lui était le roi, ses sujets se soumettaient à lui, alors combien plus nous devrions nous soumettre au roi parfait. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon ce qu'avait fait le roi. Alors nous, bien sûr que si on se compare comme sujet, nous on est le sujet du grand roi. Si les sujets de David trouvaient bon ce que le roi décidait, nous, bien sûr, on se doit de trouver bon tout ce que l'Éternel nous envoie parce que c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui, cette brève leçon sur la soumission de Dieu à Dieu? La première, reconnaissons humblement le fait que nous avons besoin d'être soumis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. je sais que j'ai besoin d'être soumis puis parce qu'on a tous tendance à être rebelles et Dieu s'occupe de changer ces choses en nous. Mais reconnaître le fait qu'on a besoin d'être soumis, c'est une première chose à faire. La deuxième, la soumission de notre volonté est une œuvre divine. Remercions-le et louons-le. Comme on a lu, même les circonstances affligeantes sont voulues par lui. Ce n'est pas toujours nécessairement facile de remercier le Seigneur pour des circonstances qu'on on trouve affligeantes dans nos vies. Mais on sait, parce que les Écritures nous disent que tout ce qui permet qu'il nous arrive, c'est voulu, et ça l'a pour un but ultime, c'est notre bien. Troisième application, réagissons bien à son œuvre sur nous. Arrêtons, comme il nous le demande dans le psaume 46. Acquiesçons sa main, reconnaissons sa main dans ce qu'il nous envoie. Gardons notre paix en silence, comme Aaron, et écoutons attentivement et humilions-nous par sa grâce et pour sa gloire.